Phrygis, une phylogénèse. Friedrich Dürrematt aimait dire que la Suisse n'existe pas. Pourtant, elle est bien là, avec son drapeau carré, ses mantres à coucou, son chocolat et ses commerces internationaux. La question serait plutôt de savoir si les Suisses existent, car ce petit pays au cœur de l'Europe est constitué d'un agrégat de populations qui s'est fait sur plusieurs siècles depuis une première alliance militaire en 1291. On peut se demander si la Suisse actuelle a sa propre phylogénèse qui se serait développée entre terres rurales et zones urbaines. Avec l'historien Roberto Biolzi, cette série d'entretiens sur Lumpenstation se penche sur l'histoire suisse en cherchant la réalité dans les mythes et les réalités devenues mythes. À travers une succession de batailles, alliances et mercenariats, nous allons revenir sur l'épopée d'un État, à partir de sources et terrains de bataille, de manière à remettre un peu d'ordre dans l'utilisation politique de certains événements, que cela soit pour glorifier ou mépriser l'histoire suisse.
Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à ce premier épisode qui va explorer l'histoire suisse, les mythes, les réalités. On va essayer de traverser plusieurs sources et on espère pouvoir comme ça éclairer un peu ce qu'il s'est passé depuis le début de la création de la Suisse jusqu'à environ nos jours. Je suis accompagné dans cette épopée par Roberto Biolzi, qui est enseignant à l'Université de Lausanne, spécialisé dans la période du Moyen-Âge et de la guerre militaire. On va donc avoir aussi toute une perspective de comment aussi la Suisse s'est créée au fil des batailles, qu'elle soit locale pour les Suisses ou à l'étranger. Évidemment qu'on ne va pas tout voir aujourd'hui, mais je pense que Roberto, c'est bien de commencer par le tout départ. Alors, on a même sur les pièces de monnaie cette date, 1291. Donc voilà, 1291, il y a la Suisse qui commence.
Alors, bonjour. Avant tout, 1291, évidemment, c'est une date qui a été choisie, évidemment. Et parler de la... En tant qu'historien, si vous demandez à n'importe quel historien de quand la Suisse est née, à quel moment la Confédération, dans le pays où on vit, il s'est véritablement formé... évidemment, parler de 1291, c'est une... pour l'historien, d'un point de vue institutionnel, évidemment, c'est pas juste, c'est faux. Dans la mesure où, quand il y a eu ce fameux pacte, scellé par les cantons primitifs, les fameux Waldstätten, il n'y avait pas du tout la volonté de créer quoi que ce soit.
Donc, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas des montagnards qui se sont dit « Tiens, on va se retrouver là sur le pré du Grütli et on va créer la Suisse. »
Mais évidemment pas. Évidemment, c'est symbolique dans la mesure où, d'un point de vue institutionnel, l'État où on vit, mais comme tous les États modernes, ont été créés au 19e siècle. Après, d'un point de vue identitaire, on peut en discuter. Dans le sens où, c'est vrai qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et c'est vrai que d'une manière un peu romantique, on pourrait dire, on pourrait faire remonter, effectivement, et c'est d'ailleurs ce qu'on a toujours fait. On a voulu voir... dans ce fameux pacte, une sorte de naissance de la Suisse. Or, ça, on peut en discuter, on va dire le but un peu de cette rencontre, non ? On peut discuter autour de ces faits, de ces questions, mais il faudrait plutôt parler... Alors voilà, ce que souvent on ne sait pas, c'est que les mythes fondateurs Et toute cette épopée, comme tu l'as voilà, définie toi-même il y a un instant, elle n'est pas véritablement née en 1291, au XIIIe siècle, mais tous les écrits concernant toutes ces fameuses batailles, et Guillaume Tell, évidemment, parce que voilà, c'est lui quand même l'héros national de la Suisse, ont été créés quand même bien après, c'est-à-dire au XVe siècle. C'est à ce moment-là qu'on met par écrit toutes ces histoires. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est-à-dire ce qu'on va essayer de faire, essayer plutôt de comprendre pourquoi, à ce moment-là, au XVe siècle, on a commencé à parler de ces histoires un peu fabuleuses, mais qui s'inscrivent malgré tout dans un contexte politique qui a quand même existé.
Historiquement, il y a quelque chose qui se passe quand même en 1291.
Mais bien sûr, en 1291, il y a un pacte d'alliance qui est fait entre trois communautés rurales.
C'est quelque chose qui a été imaginé à ce moment-là, ou ça fait partie d'un contexte, c'était commun qu'il y ait des pactes à cette époque-là, ou c'est une espèce de, déjà l'unicité suisse, quoi, ce pacte.
Alors vraiment, je pense qu'il ne faut vraiment pas parler de Suisse, il faut vraiment parler de Juitsois, d'Uranien et de, et de Untervalien d'une certaine manière, puisque qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord comprendre un peu le contexte politique de la fin du Moyen-Âge, qui est une période belliqueuse. Il y a des monarchies, des empires, tels l'Angleterre, le royaume d'Angleterre, le royaume de France, l'Empire, le Saint-Empire germanique, qui sont en train de s'agrandir, c'est un monde d'expansion territoriale. Et de l'autre côté, il y a des pouvoirs régionaux qui s'opposent à cette expansion, qui se révoltent. Du 13e au 15e siècle, c'est une période, quand même, la fin du Moyen-Âge, une période de révolte. Et voilà, l'histoire, on va dire, ces alliances s'inscrivent un peu dans ce contexte-là de conflits entre pouvoirs centraux, centralisés, forts, et des entités politiques plus petites, des villes notamment, ou des communautés rurales comme les premiers Suisses, qui se révoltent et qui essaient de riposter, de contraster ce pouvoir.
Et on peut imaginer les raisons de cette révolte, c'est parce qu'on n'aime pas l'empereur, il y a des raisons économiques, et j'imagine qu'on ne fait pas d'alliance sans un objectif.
Mais alors, évidemment, tout le monde veut garder une certaine indépendance. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut généraliser. De manière générale, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, pour les empereurs, il faut quand même dire 1291 coïncide plutôt avec la mort. Alors on a dit qu'on va pas trop faire de l'histoire avec des faits, des personnages, mais quelques dates et quelques personnages, il faudra quand même le mentionner. Il y a la mort de Rodolphe d'Habsbourg, qui était un empereur et aussi le prince d'Autriche, qui détenait un certain nombre de droits dans les régions de la Suisse centrale actuelle. Quand il meurt, on peut, pour se protéger, on pourrait dire, ou bien pour annoncer un certain indépendant, il profite de ce moment-là, donc de cette de la mort, quand il y avait un souverain qui mourait, généralement après il y avait des longs moments de succession, il y avait des luttes intestines, le pouvoir mettait du temps à se remettre en place. Donc du coup, à ce moment-là, effectivement, on a, il y a cette alliance, il y a ce pacte. Comme il y en a des centaines, voire des milliers en Europe, à cette époque. Donc c'est une alliance militaire de se dire dès que si jamais on sera attaqué, hein, on pourra se défendre ensemble. Alors donc, 1291, il faut surtout retenir la mort de ce souverain qui avait voilà, des droits sur la Suisse centrale. La Suisse centrale, évidemment, maintenant, à cette époque-là, ce serait un anachronisme, mais pour se comprendre. Après, voilà, la Suisse, évidemment, si tu parles d'un point de vue géopolitique, stratégique, bien sûr qu'en Europe, elle avait un rôle très important, puisque c'est vraiment la région qui sépare ben voilà, les terres d'Empire, le nord de l'Europe et l'Italie. Et voilà, moi, quand j'explique un peu la politique médiévale, alors maintenant, nous, on parle de gauche et de droite, hein, au Moyen-Âge, il y avait l'empereur et le pape. Et il y avait ceux qui soutenaient le pouvoir voilà, laïque, on pourrait dire, donc des empereurs, hein, qui étaient l'autorité suprême politique en Europe, et ceux qui étaient plutôt pour un pouvoir spirituel, hein, incarné par le pape. Mais ces deux pouvoirs étaient interdépendants, c'est-à-dire que les empereurs, pour se faire couronner empereur, déjà depuis l'époque de Charlemagne, devaient descendre à Rome et se faire couronner. Évidemment, le passage des cols alpins, toute cette région-là, stratégiquement, était bien évidemment très important.
J'imagine avec des douanes ou des... comme on dit, des péages de l'époque. Donc, il y a juste le Gothard à côté. On peut quand même préciser qu'il y a un passage assez...
Alors, non. Alors, les cols alpins, il y en a d'autres. Hein. Notamment, il y a les empereurs, justement, après cette histoire avec on va dire, les Suisses. Les empereurs, bon, ils pouvaient aussi passer de l'autre côté. Il y avait plusieurs cols alpins. Alors, il y avait évidemment, bien sûr, des raisons économiques derrière. Mais... ben voilà, évidemment, la maîtrise, effectivement, si on prend par exemple, moi je suis spécialiste de la Savoie, par exemple. La Savoie, c'est un état médiéval qui se construit des deux côtés des Alpes, donc plutôt voilà, Suisse romande et de l'autre côté Val d'Aoste, Piémont. Et vraiment, ils sont appelés les portiers des Alpes. Parce qu'évidemment, et c'est vrai que leur succès est dicté par évidemment, le contrôle des cols alpins. Et les empereurs passent d'ailleurs généralement de ce côté-là. Mais bien sûr, pour les Suisses, maîtriser ces régions, évidemment, il y avait aussi des intérêts économiques derrière. Mais je ne dirais pas que c'est la cause principale pour, on va dire, ces problèmes, on va dire, au départ, au début.
Et moi, ce qui m'a toujours quand même surpris, que ces trois cantons, justement, qui vont former... une Suisse primitive, donc dans le sens que c'est pas encore de la Suisse comme tu as bien
non,
dit.
Non, bien sûr.
C'est ces trois régions quoi qui font cette alliance. Comment ça se fait que des pouvoirs aussi forts que d'un côté le pape et de l'autre côté un empire comme celui des Habsbourg, pour le dire un peu trièvement, ne les défoncent pas quoi, les laissent faire.
Eh ben voilà, alors je pourrais répondre à ta question avec une autre question, c'est-à-dire pourquoi les Américains n'arrivent pas à faire les talibans ou Oliès, c'est pas... aller faire la guerre chez les autres, c'est toujours... c'est pas évident, hein. D'autant plus que, voilà, on le verra, c'est un peu l'idée. Et voyons, peut-être il y avait au départ, je veux dire, l'histoire particulière, la spécificité, effectivement, des Suisses, hein, plutôt que de la Suisse, en tout cas de ces premières alliances, que par rapport à tous les autres rébellions qu'il y a en ce moment-là, généralement, les grands pouvoirs arrivent à vaincre, en tout cas, à réprimer dans la violence... ce genre de rébellion. Les rébellions des Suisses, c'est justement intéressant parce qu'en fait, elles sont caractérisées par des victoires militaires. Puisque, voilà, on le verra, il y a quand même toute une série de batailles au XIVe siècle, de la bataille de Morgarten, la Haupen Semp, hein, où effectivement les Suisses Donc une armée fondamentalement composée par des paysans et des bourgeois, en majorité, gagne contre les armées qu'on pourrait encore définir féodales d'une certaine manière. Une armée composée essentiellement par des chevaliers à cheval. Et c'est vrai que ces batailles-là, symboliquement, marque un peu la fin un peu du Moyen-Âge féodal et de la féodalité, en tout cas de la suprématie du combattant à cheval. Les Suisses, par l'entremise d'une guerre un peu de guérilla, évidemment, hein, c'est pas des batailles rangées, par des moyens qu'on verra, hein, je l'espère, dans ce petit podcast, arrive effectivement à gagner. Hein. C'est bien pour ça que c'est un peu extraordinaire. Les Suisses arrivent à faire réussissent où peut-être d'autres villes ou d'autres entités politiques n'arrivent pas.
Et surtout, il me semble que, comme tu dis, il y a des paysans et l'alliance de bourgeoisie. Et évidemment, parce qu'on connaît un peu l'histoire suisse qu'on nous raconte à l'école, il n'y a pas vraiment de chevalier. Dans ce sens, il n'y a pas de prince comme ça qui dit à un moment donné « je vais me rebeller » ou ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie. C'est quand même assez bizarre que... On n'a pas de prince qui se rebelle. C'est une particularité.
Bah, on va dire.
Ou alors il y avait peut-être une aristocratie et elle n'est pas trop mise en avant, je ne sais pas.
Disons, les Suisses, pas encore à ce moment-là, mais bientôt, ils gagneront le surnom de dompteurs de princes.
Carrément. C'est
ça. Bah oui, bien sûr. Puisqu'ils arrivent à aligner une infanterie organisée, disciplinée, qui s'appellera un peu par la suite le carré suisse, qui était une unité militaire, une formation militaire qui aura beaucoup de succès à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Et c'est un peu les premiers, c'est pas les seuls. Tout le monde a vu Braveheart et a vu ce qu'il a fait, l'infanterie écossaise contre les chevaliers anglais, plus ou moins à ce moment-là. Il y a d'autres batailles. Il y a les villes flamandes qui s'opposent au roi de France, Philippe le Bel, et qui gagnent à la bataille de Courtrai, on est en 1302. Comment dire, l'histoire militaire reflète aussi un peu les changements politiques et sociaux de cette époque-là. Il y a des forces urbaines et paysannes qui arrivent à contrer la chevalerie lourde des nobles, des seigneurs féodaux, qui pendant 4 siècles avaient dominé les champs de bataille européens.
Avec des armes, j'imagine, aussi rudimentaires, parce que si on imagine le chevalier avec... l'armure lourde, les épées, le roi Arthur, c'est quand même des fourches ou des bâtons. En disant, il y a un côté d'armement qui est aussi intéressant.
Oui, mais alors bien sûr. Mais alors, je te propose peut-être de, voilà, moi je suis quand même un historien de la guerre, peut-être de parler de la première bataille, peut-être, qui caractérise un peu cette période. La fameuse bataille de Morgarten. T'en as entendu parler. Qu'est-ce que tu sais? Ça, c'est quelque chose à l'école.
Alors, je sais qu'il y a un lac, pas trop loin.
Alors, c'est bien. Il y a l'histoire d'un lac, oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, je t'interroge comme ça pour voir un peu qu'est-ce qui est resté finalement de cette...
Alors je sais pas, malheureusement on n'est pas en direct, je peux pas me faire aider par des gens, aidez-moi, non là je dois...
Mais alors on est d'accord, parmi les mythes fondateurs, alors il y a vraiment le pacte de 1291, qu'on l'a choisi au 19e siècle, attention, hein, de prendre ce pacte comme l'acte fondateur de la Suisse. Jusqu'au 19e siècle, c'était le pacte de Brunnen. Après la bataille de Morgarten en 1315, c'était cette alliance-là, le renouvellement de cette alliance qui a été un peu choisi comme alliance, comme acte pseudo-fondateur de la Suisse.
Disons qu'en quelque part, c'est choisi cet événement-là ou ces événements-là entre 1291 et 1315, un peu comme s'il y avait après un effet domino qu'à partir de là, il y a plusieurs choses qui vont se suivre.
Oui, c'est une escalation.
C'est une escalation, voilà.
Bien sûr, c'est une escalation, lutte de pouvoir entre Habsbourg et qui était une grande famille d'Autriche qui avait des grands domaines et aussi des possessions dans la Suisse actuelle. Et les populations, voilà, leurs sujets qui se rebellent et qui essayent d'être soumis, d'avoir l'immédiateté impériale. Ok, on a dit qu'on ne va pas parler de termes trop techniques, mais disposer de l'immédiateté impériale, à ce moment-là, ça voudrait dire que le seul seigneur, l'autorité, vous êtes lié à l'empereur, et c'est l'empereur qui, on pourrait dire, voilà, qui est votre seigneur, mais être lié uniquement à l'empereur, ça voulait dire de disposer d'une grande liberté, parce que pour des régions, si votre seigneur, on pourrait dire, il a son pouvoir à des milliers de kilomètres de chez vous, eh bien, ça revient à dire que vous pouvez, on peut faire ce que vous voulez. Par contre, si votre seigneur, il est tout prêt, comme dans le cas finalement des Habsbourg, qui mettaient des baillis, qui mettaient des représentants de leur pouvoir dans ces régions-là, eh bien, c'était plus compliqué. Alors voilà, ce qui se passe un peu, sans trop rentrer dans les détails, après 1291, c'est-à-dire que Henri VII de Luxembourg, qui n'était pas en Habsbourg, mais qui était empereur entre 1309 et 1313, octroie l'immédiateté impériale aux Juifs, aux Oraniens, à Unterwald.
Du coup, à cette époque-là, il n'y a pas encore de nom. Non, c'est vraiment les Juifs, il n'y a pas de proto-nom pour parler de ce territoire.
C'est une ligue. Non, c'est une ligue. Je pense qu'on ne parle même pas des Suisses, si ce n'est les Juifs. Et finalement, c'est eux qui ont donné le nom à la Suisse parce qu'on était effectivement les premiers à verser du sang lors de cette bataille en 1315.
C'est aussi plus facile à prononcer, je me permets cette interprétation libre.
C'est vrai. On aurait pu s'appeler les Helvètes, mais on reviendra peut-être après sur cette question.
Comment commence cette bataille, justement?
Alors, parce qu'après, voilà, l'empereur Henri VII meurt en 1313. Donc, du coup, il y a un conflit pour le trône impérial entre Louis de Bavière et Frédéric le Beau d'Habsbourg. Évidemment, les confédérés appuient Louis de Bavière, évidemment, parce qu'ils ne voulaient surtout pas qu'un empereur soit en Habsbourg, hein, évidemment, parce qu'il y avait des conflits d'intérêts dans ces régions. Et du coup, alors, pour des raisons qu'on ne va pas dénombrer, il y avait apparemment le cœur de la question, c'était l'abbaye d'Einsiedel, qui est encore un lieu un peu de pèlerinage pour les patriotes suisses actuels, qui détenaient, évidemment, donc, dont les Habsbourg détenaient la Vourie, donc voilà, ils détenaient des droits sur l'abbaye. Il y a des conflits entre l'abbaye et les Schwitzois. Hein. Et les Habsbourg, aussi pour punir, voilà, il y avait eu un assassinat d'un Habsbourg qui avait été assassiné en 1308 à Königsfelden, donc dans l'actuel canton d'Argovie. Bref, il y a des tensions politiques et Léopold, duc d'Autriche, il envoie une armée de répression, hein, pour punir finalement les Schwitzois. Il envoie une armée d'entre, on parle de 4-8 000 hommes, hein, par
rien. À l'époque,
c'est une grande armée, en tout cas il y avait au moins 2 000 cavaliers. Alors il faut quand même dire que... Avant de raconter l'histoire, il faut dire que c'est quand même une bataille dont les récits, les chroniques contemporaines dont elle parle, elles sont très biaisées. Même les historiens, pendant longtemps, ils ont douté de l'existence de cette bataille.
Okay.
Il faut quand même dire. Moi, je vous raconte ces faits, mais bon, on peut, en résumant un peu ce qu'il y a dans les chroniques, c'est certainement pas si épique comme on a voulu le faire croire, on est bien d'accord. Mais ça a quand même été une petite bataille qui a eu un écho important. Puisque voilà, il faut s'imaginer une armée médiévale, un peu comme on la voit dans les films, qui marche en direction de... alors on ne sait pas trop s'ils visaient Schwitz ou Einsiedel, mais les Suisses Et là, je sens que ça va te plaire parce qu'on avait déjà, on peut discuter de ce caractère un peu terroriste des Suisses. Au tout début, on pourrait dire de leur histoire. L'armée est en train de marcher entre une colline et le lac d'Aguery, qui se trouve entre voilà, pour se comprendre, entre le canton de Zug et le canton de Schwyz. Et là, on a entendu quand même, quand on était petit, les Schwyzois balancent des pierres et des troncs sur l'armée des Habsbourg, de Léopold d'Habsbourg. Et alors, une fois avoir infligé des grands dégâts en balançant des pierres et des troncs de la montagne, il descend et il s'engage en corps à corps sanglant, où il y aurait vraiment des centaines de morts, surtout dans l'armée autrichienne. Et voilà, une victoire plutôt éclatante. Puisque, alors, tu m'as demandé comment c'est possible qu'ils ont gagné, la connaissance du terrain, l'effet surprise. Une armée de cavaliers, s'ils ne peuvent pas charger, ils ne sont pas très forts. Hein. La cavalerie, dans la guerre, elle est forte quand elle peut prendre de l'élan. Alors là, c'est facile, vous n'avez même pas besoin de combattre, c'est comme des tanks. Par contre, si là, ils se sont trouvés, comme on peut dans un entonnoir entre un lac et une montagne, voilà, effet surprise.
Et c'est pas la même chose dans les plaines, où je sais pas la vitesse de cheval, mais ça doit être au moins autour des 30 km/h.
Peut-être même un peu plus, c'est clair.
Je sais pas, 400 kilos environ qui arrivent à 30 km/h, ça fait du dégât. Quoi.
Exactement. Mais là, ils arrivent apparemment, il y a toute une armée. Alors, apparemment, selon certaines chroniques, une partie de l'armée habsbourgeoise qui essaye de fuir dans le lac. Notamment. C'est pour ça que tu te rappelles du lac, parce qu'il y a cette image des habsbourgeois qui se noient dans le lac sous le poids de leurs armures. Alors. Comme je l'ai dit, c'est un peu un récit à prendre avec...
C'est aussi quelque chose, vu que tu parlais de films comme ça, d'habitude dans les films, avec ces batailles rangées, il y a toujours un moment où ils sont face à face, il y a un prince qui va parler avec l'autre au milieu, ils n'arrivent pas à négocier, et puis là, ils lancent l'attaque. Alors que là, tu me dis que quelque part, le côté terroriste est un peu... Il n'y a pas de discussion, ils y
Mais,
vont direct.
Alors, il y avait des fortes tensions, et ils profitent peut-être de la situation. Le problème, tu l'as dit toi-même, tu as donné la réponse toi-même. S'il y a l'armée... Imaginons, on est dans la guerre de 100 ans, les Français contre les Anglais. On parle de deux monarchies, on parle de deux armées, d'une certaine manière... Prancière, fait par des. Il y a un code chevaleresque. Donc, du coup, évidemment, déjà, on n'essaye pas trop de se tuer, mais plutôt de se prendre à rançon. Hein. C'était beaucoup plus intéressant économiquement parlant de.
Se prendre à rançon, peut-être un peu.
Rançonner quelqu'un. Rançonner, c'est capturer quelqu'un. On se rencontre sur un champ de bataille, moi et toi, André, au Moyen-Âge. Si on est deux chevaliers, on ne va pas se tuer. Disons que si c'est toi qui arrives à me plaquer au sol, à me capturer, tu me prendras dans ton château. Alors, il y en avait qui traitaient plus ou moins bien ou plus ou moins mal leurs prisonniers, et tu vas demander à ma famille une rançon. C'est-à-dire, vous voulez que je libère votre fils? Non, vous savez que c'était des nobles qui, généralement, ils avaient de l'argent. Et on fixait le prix d'une rançon qui, généralement... correspondait à une année des revenus de la seigneurie. Quand même, c'est pas mal. Par contre, les Suisses, on va parler des Suisses pour simplifier, bien sûr, ils rentrent pas dans ce type de guerre-là, parce que eux, c'est pas vraiment des nobles. Donc, du coup, c'est plutôt des paysans, à ce moment-là, effectivement, plutôt une armée de paysans, parce qu'il n'y a pas encore Berne, Zurich, c'est vraiment là, il n'y a pas encore les... Et donc, du coup, ils s'en fichent de prendre des rançons. C'est bien ça qui fera aussi un peu leur réputation, un peu de terroristes, de montagnards féroces aussi, par la suite. Donc, aussi, c'est ça qui explique aussi tous ces morts et le fait qu'il n'y a pas vraiment eu de diplomatie, on va dire.
par rapport à aujourd'hui, voilà, ils n'étaient pas très diplomates. Quoi,
bah, ça dépend. Alors, vraiment, ça dépend. C'est difficile parce que dans la guerre médiévale, oui, la diplomatie avait quand même pas mal. Elle avait beaucoup d'importance. Et les gens évitaient la bataille rangée comme tu la vois dans les films. C'était quelque chose d'assez rare. Et les gens évitaient à tout prix ce genre d'affrontement parce qu'il y avait beaucoup de morts quand même. Bien sûr, les gens essayaient de se prendre à rançon, mais les accidents, on pouvait tout perdre ou tout gagner dans l'espace de quelques heures. Donc du coup, voilà, c'est, et on essayait quand même d'éviter au maximum ce genre de bataille. Là, on ne peut pas vraiment parler d'une bataille rangée, on est plutôt dans l'ordre de la guérilla.
Oui, exactement.
Ce genre de bataille où il y a une surprise, on attaque surprise et voilà, avec la maîtrise du terrain.
Ça me fait un peu penser à Che Guevara et la révolution cubaine. Alors, il y a un peu cette technique d'incursion surprise. Mais, je vais reprendre le terme guérilla.
Hein. Oui, mais d'ailleurs, mais ça peut-être on y arrivera. Par la suite, mais faut quand même. Alors là, le mythe de Guillaume Tell n'existe pas encore, on est d'accord. Mais il faut quand même savoir que tous ces mythes, c'est l'histoire de la Suisse romancée, donc c'est ce groupe de paysans qui se rebelle et qui arrive à défaire voilà, le grand pouvoir des Habsbourg.
David contre Goliath.
Oui, mais ça sera énormément repris par la suite. Ça sera Guillaume Tell, c'est pas seulement un symbole de la fondation de la Suisse, mais on verra que c'est, mais c'est aussi a été repris c'est un symbole au niveau mondial révolutionnaire qui sera repris aussi dans d'autres pays, bien sûr, jusqu'à la Révolution française. Donc c'est pour ça, bien sûr, qu'on a voulu voir dans ces premières rébellions de Suisse une sorte de, voilà, effectivement, de, comme tu le dis, David contre Goliath, c'est une histoire qui plaît, surtout après le Moyen-Âge, quand on essaie véritablement d'éliminer petit à petit l'ancien régime.
C'est surtout surprenant parce que quand on pense un peu aux batailles et aux luttes, vient toujours un peu en tête la question de la faim, non, les révoltes de la faim. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas une révolte qui naît parce qu'il y aurait un pouvoir qui affame la population. C'est peut-être pas encore clair pour moi. À part, voilà, on a dit un peu une envie d'autonomie et l'école, etc. Et je me demande si c'est pas aussi un peu une particularité en dehors du côté David et Goliath, un peu en côté surprenant du fait que voilà, il y a pas vraiment de raison évidente, ou alors vu qu'il y a pas assez de sources, on peut pas non plus l'attester. Il y a eu peut-être l'hiver 314 qui était mauvais, donc ils se sont énervés. Je sais pas.
C'est clair que ne pas avoir avoir un seigneur sur place avec un bailli, la faim, je sais pas. En tout cas, la Suisse, c'est sûr que c'était pas des régions particulièrement riches. Hein. Alors, ça, c'est sûr. Le fait d'avoir un seigneur qui vous demande quand même de participer avec. L'aspect fiscal était là aussi, donc il y avait quand même des impôts à payer. C'est clair que. Avoir une autonomie par rapport aux Habsbourg, il y avait aussi certainement aussi des questions monétaires là derrière. Moi, je pourrais pas trop.
C'est mon petit côté marxiste.
Écoute,
au niveau des sources, il y a pas vraiment ces raisons-là. C'est le côté un peu mythique de l'affaire, comme tu as dit tout à l'heure, où presque on exagère, prend le dessus au niveau des sources.
Alors. Après, voilà, cette bataille-là, parmi les nombreuses batailles de cette époque, sur le moment, ben voilà, bien sûr, les faits en écho, les Habsbourg se font démonter par les Suisses, c'est pas très glorieux, bien sûr, et je pense qu'il y a déjà un certain écho. On n'est pas encore, les Suisses ne sont pas encore très connus militairement parlant, c'est un peu le début. Mais voilà, c'est aussi une bataille dont, comme on le verra, c'est bien après qu'on parlera beaucoup de cette guerre et on en fera un mythe fondateur. Pourquoi ? Parce que par rapport au pacte de 1291, qu'est-ce qui se passe après Morgarten ? C'est qu'avec le pacte de Brunel, en 1291, c'est uniquement une alliance militaire. Ou de dire, voilà, si moi je m'allie, si moi je vais en guerre, si Uri rentre en guerre avec, mais je ne sais pas, les Savoies, et ben, les Suissois sont obligés aussi de... C'est vraiment une alliance défensive. Je comprends. Par contre, après Morgarten, dans le pacte de Brunnen, ce qui change, c'est qu'il y a une espèce de politique étrangère commune des trois cantons. Et on commence vraiment à voir aussi, voilà, on essaie aussi pas uniquement de se défendre, mais si on attaque quelqu'un ou si on va dans une certaine direction économique, ben les autres doivent aussi suivre. C'est pour ça que, donc, c'est pour ça que pendant longtemps, le pacte de 1315 a été considéré effectivement comme plus important, on va dire, que les autres.
Et cette alliance, comment elle se passe ? Il y a déjà les votations à main levée, ou justement comment quelque part se concrétise concrètement cette idée où il y a, je sais pas, Schwitz ou Unterwald qui dit on va aller à Morgarten, et il y a le troisième qui suit. Quels sont un peu légalement, est-ce qu'on a...
Bah, il y avait quand même de notables, alors évidemment qu'il n'y avait pas... Alors, j'avoue quand même qu'effectivement, je ne connais pas, je ne sais pas vraiment si on peut connaître vraiment très précisément les modalités politiques de ces petites communautés rurales.
C'est oral, il n'y a pas de contrat...
Il y a peu, non, mais il y a quelque chose, il faudrait évidemment, on aurait pu effectivement regarder quelques textes. Ce qu'on peut dire, certainement que politiquement, parce qu'on a parlé de deux types de forces politiques différentes, les seigneurs, encore sur une hiérarchie féodale bien établie, très verticale, c'est vrai que si on regarde les structures politiques... De ces communautés, c'est vrai que c'était plus horizontal. Il y avait le même nombre de représentants quand même pour les trois cantons. Ça, c'est quelque chose quand même, cette égalité, c'est quelque chose qui est effectivement resté aussi dans la Suisse actuelle, n'est-ce pas, hein? Je veux dire, ça c'est quelque chose évidemment qui était vu comme quelque chose, ou en tout cas qui a été vu après comme quelque chose d'assez révolutionnaire, un peu comme le début, voilà, de la démocratie.
C'est une alliance horizontale où justement c'est pas oui. deux territoires qui s'associent oui. à un plus fort, mais c'est voilà. chacun un peu la même puissance de décision et du coup c'est presque réfléchir à trois, quoi.
Oui. Après on verra que ça change, mais c'est vrai qu'au début, oui, bien sûr, ouais, on peut dire que c'était. Il y avait en tout cas, c'est-à-dire que par rapport à un système effectivement féodal, bien sûr, où il y avait le seigneur, le vassal, etc. Ça, c'était une autre forme de... ils étaient aussi un peu obligés, d'une certaine manière, hein, parce que voilà, c'était un peu ça, effectivement, l'idée. C'était en tout cas plus égalitaire, hein. Ça, c'est sûr.
Très bien, ben voilà, on va continuer dans les prochains épisodes de voir un peu des moments clés comme ça, comme là, 1291, la bataille de Morgarten. On découvre que les Suisses, ils ont côté guérilla ou terroriste, selon...
Ouais, ça t'aime beaucoup, ça t'aime beaucoup, je sais.
Oui, parce que je trouve que ça, c'est là où voilà, l'histoire prend aussi un peu une dimension... ludique et ça change aussi un peu la donne par rapport à des discours actuels. On se réjouit de voir les prochains épisodes. On peut peut-être déjà un peu l'annoncer, pour ça on fait le côté teaser.
Ouais, bah disons, c'est vrai que on pourrait dire, c'est sûr que ces trois petites communautés, alors après cette bataille, on est d'accord, grand exploit militaire, bah c'est sûr qu'ils auraient. Cette alliance, tout le monde sait que c'est agrandi, et ce sera surtout avec l'arrivée de villes, quand même, qui étaient quand même bah, des entités politiques, les communautés urbaines, elles étaient quand même plus riches, et ils avaient aussi une puissance militaire certainement aussi plus, plus importante. Les villes, il y a des villes petit à petit, hein, dans les décennies qui suivent, aussi en raison peut-être de ce succès militaire de 1315, qui s'allieront aux Waldstätten, et voilà, après on arrive au XIVe siècle, il y aura encore des épisodes sanglants où les Suisses, là, effectivement, gagneront une réputation militaire d'envergure, je dirais, internationale.
Ce qui est une histoire intéressante de voir un peu comment, depuis des Alpes, on descend, et un peu comme en Pac-Man, quoi, on commence à manger un peu de territoire.
Ça, on ne l'avait pas encore fait, l'association Pac-Man Suisse, je pense que tu es le premier, je t'en félicite.
Ouais, parce qu'il est aussi un peu en forme de fromage, hein. Ouais. Pac-Man et mental. Alors, merci pour nous avoir écoutés, merci Roberto. On va se voir tout bientôt pour l'épisode 2 de cette série sur les mythes fondateurs suisses. Merci de nous écouter sur Lumpen Station, et à tout bientôt.
À bientôt.